Bonjour, chers élèves, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral, qui écoutez cette émission sur l'Asie, cette spéciale semaine sur l'Asie, où hier je parlais des différents types de développement économique asiatique, et aujourd'hui je vais parler particulièrement de la croissance démographique asiatique. Donc l'Asie du Sud et de l'Est compte 4 milliards d'habitants, soit 50% de la population mondiale. Il y a deux grands foyers de population qui le sont depuis l'Antiquité. L'Asie du Sud, correspondant au sous-continent indien, comprend le Pakistan avec 175 millions d'habitants, le Bangladesh avec 158 millions et surtout l'Union indienne avec 1,3 milliard d'habitants. L'Asie de l'Est abrite, elle, 1,6 milliard d'habitants, avec la Chine, bien sûr, avec 1,3 milliard d'habitants, le Japon avec 126 millions d'habitants, la Corée du Sud avec 50 millions d'habitants et la Corée du Nord avec 25 millions d'habitants. À ceci, on ajoutera, bien sûr, la Mongolie avec ses 3 millions d'habitants. L'Asie du Sud-Est compte, elle, 600 millions d'habitants, avec l'Indonésie, donc le géant démographique de cette région, avec 237 millions d'habitants, les Philippines avec 92 millions, la Thaïlande à 67 millions. Les densités sont très diverses selon les États. Nous passons de 2 habitants au kilomètre carré en Mongolie à 8 337 habitants au kilomètre carré pour la cité-État de Singapour. Les deux géants démographiques, que sont l'Inde et la Chine, eux ont une densité moyenne de 395 habitants au kilomètre carré pour l'Inde et de 144 habitants au kilomètre carré pour la Chine populaire. Les faibles densités correspondent aux régions désertiques ou semi-désertiques du nord-ouest de cet espace, c'est-à-dire le désert de Gobi, les plaines mongoles, l'Himalaya et les plateaux centraux du Vietnam, du Laos et de la Birmanie. Des fortes densités correspondent aux foyers de population anciens, c'est-à-dire ceux où s'est développée l'agriculture il y a 7000 ans. On les retrouve donc le long des fleuves, le Gange, le Yangtze, le Mékong, et c'est ce type de situation s'explique aussi par l'irrigation et le développement des premières civilisations urbaines liées donc à l'agriculture. Je tiens à signaler par la même occasion que l'Asie n'est pas seulement une région de riz. Le riz se trouve sur un axe, on va dire, au sud du Yangtze. En Chine, vous avez la région du riz, qui nécessite donc une main-d'œuvre très nombreuse, des processus d'irrigation longs et fastidieux, qui nécessitent donc, je le répète, une population nombreuse. Au nord de cette ligne du Yangtze, donc, se trouvent les régions de blé, c'est-à-dire avec une agriculture moins, qui a moins besoin de main-d'œuvre et qui nécessite en fait que des précipitations. Avec donc ces régions, l'Inde et la Chine notamment, sont des régions où ont été créés les premiers royaumes, les premiers empires. Le nom de la Chine vient de la dynastie des Qin en 221 avant Jésus-Christ, qui a donné aussi et qui a fait construire aussi la muraille de Chine. Elles correspondent donc aux régions des plaines alluviales, le Gange, le Mékong, le Yangtze, ou des deltas, comme celui de la rivière des Perles. Elles correspondent aussi aux littoraux et aux régions qui sont connectées par des réseaux de transport. C'est le cas, par exemple, au Japon, de la mégalopole de Tokyo à Nagasaki, en passant par Kobe, où vit 80% de la population nippone. C'est aussi le cas de l'île de Java, en Indonésie. C'est le cas enfin des agglomérations qui s'accroissent en taille en espace de façon souvent exponentielle dans cette région du globe. L'Asie est entrée en effet dans la transition urbaine, c'est-à-dire un processus par lequel une population rurale devient majoritairement urbaine. Le taux moyen d'urbanisation est de 40% en Asie, avec de fortes disparités. La Corée du Sud, le Japon avoisinent les taux d'urbanisation européens et nord-américains avec 80 et 70% de la population. L'Inde, quant à elle, est à 30%, le Népal ou le Cambodge en dessous de 20%. Depuis 1960, la population urbaine a donc été multipliée par 5 dans cette région, soit 1,5 milliard d'habitants vivent actuellement dans les villes ou les agglomérations. Ceci dû principalement à un accroissement démographique, mais aussi à un exode rural qui, selon les estimations, concerne chaque année 40 millions d'Asiatiques. 8 des 10 plus grandes agglomérations du monde sont asiatiques. Tokyo avec 40 millions d'habitants, Jakarta en Indonésie, Séoul en Corée du Sud, Karachi, Manille, Shanghai, Bombay, Pékin, toutes ces villes ont plus de 10 millions d'habitants, voire 20 millions d'habitants. Plus de 30 millions d'agglomérations ont plus de 5 millions d'habitants. Si dans les pays riches et développés, comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, les villes sont organisées et l'urbanité garantit notamment l'accès à l'électricité ou l'eau courante, Tokyo, Séoul, Taipei, Singapour vivent comme en Europe ou en Amérique du Nord, voire même comme Singapour. Elles se targuent aujourd'hui d'avoir un esprit avant-gardiste, urbanistiquement tournée vers les questions d'environnement. Les pays émergents et les pays en voie de développement vivent des conditions bien inégales. 500 millions d'Asiatiques vivent encore dans les bidonvilles. La Chine ne connaît pas officiellement de bidonville. Le régime tente de contrôler l'exode rural vers les grandes métropoles que sont Shanghai, Guangzhou, Pékin, Tianjin, vers des zones et des villes de moindre importance. Des immeubles sont construits avec des urbanismes plus ou moins heureux dans des petites et moyennes villes de province, mais véritablement, ils n'attirent pas véritablement la population chinoise. La dictature aide au contrôle de cette urbanisation en Chine. En effet, le régime chinois a depuis 1959 un passeport intérieur, le Hukun, sorte de passeport donc qui vous donne le droit d'être soit en ville, soit à la campagne. Cependant, un diplôme valorisant, une qualification exceptionnelle, vous permettent d'accéder à une ville monde chinoise comme résident, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une petite ville à Shanghai, Pékin ou Guangzhou. Rien de tel en Inde, où le régime politique démocratique interdit ce type de contrôle. L'exode rural est intense. Mumbai connaît des bidonvilles de plusieurs millions d'habitants sur les 10 millions que compte sur les 15 millions, 20 millions que compte l'agglomération de Mumbai. 50% de la population de cette ville vit dans des bidonvilles. Pourquoi ? Eh bien parce que vous y avez des entrées massives de migrants venant des campagnes. C'est-à-dire que nous avons près de 3000 entrées par jour entre 1990 et 2011. Ceci est véritablement ingérable pour des pays en voie de développement. Et c'est ce qui explique grandement la présence de bidonvilles en Inde et dans la majeure partie des pays de l'Asie du Sud et de l'Est. Ce type de processus se déroule donc dans toute l'Asie. Au fur et à mesure que le pays se développe industriellement, les paysans recherchent du travail là où il y en a, et les zones urbaines sont un eldorado pour ceux comme pour nos ancêtres, pour eux comme pour nos ancêtres en Europe et en Amérique du Nord au 19e et 20e siècle. Ainsi, la croissance urbaine est encore inachevée en Asie. Elle est liée à la croissance démographique naturelle, dont on retrouve les différentes phases dans ce qu'on appelle la transition démographique. Cette transition marque le passage d'un régime démographique ancien avec de forts taux de natalité et de mortalité à celui que l'on caractérise de moderne, avec des faibles natalités et de faibles mortalités. Ces phases se déroulent en deux phases. La première phase de transition est une baisse de la mortalité très rapide avec un maintien élevé de la natalité. Cette phase est encore vécue notamment dans des pays comme l'Afghanistan ou dans certaines régions de l'ouest du Pakistan. Cette phase explique en partie l'explosion démographique de l'ensemble des pays de la région. elle est suivie par une phase 2, caractérisée par une baisse de la mortalité accompagnée d'une baisse continue de la natalité. Cette phase se caractérise par un fléchissement de la croissance démographique et un ralentissement de celle-ci. Et c'est ce que vivent en ce moment des pays comme le Laos, le Cambodge, mais aussi le Vietnam et bien sûr l'Union indienne. Cette dernière phase aboutit à ce que les démographes nomment donc un régime démographique moderne, c'est-à-dire que celui que nous vivons, nous, en Europe, en Amérique du Nord, et que vivent particulièrement les Japonais, les Coréens du Sud, les Taïwanais, les Singapouriens. Alors, où en sont les pays asiatiques du Sud et de l'Est dans cette transition ? Alors donc, aucun pays ne se trouve plus dans l'ancien régime. L'Afghanistan, donc je répète, se retrouve dans la première phase. Le Laos, le Bangladesh, l'Inde se trouvent dans la phase 2. La Chine, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud et bien sûr le Japon se trouvent dans un régime démographique moderne. Le Japon est un pays vieillissant, avec un taux de fécondité par femme, c'est-à-dire le nombre de femmes, le nombre d'enfants de naissance divisé par le nombre de femmes sur un an. Donc ce taux de fécondité est de 1,2 enfants par femme. Ce taux s'explique par l'allongement des études et l'âge du premier enfant très tardif, c'est-à-dire au-delà de 30 ans, mais aussi par les exigences de travail qui font que les couples nippons ne font plus d'enfants. Le Premier ministre Shinzo Abe a bien essayé d'enrayer le processus par une incitation à prendre 2 semaines de vacances pour les salariés jeunes. Rien n'y a fait. Apparemment, les salariés jeunes préfèrent les carrières et leur travail plutôt que de se retrouver en tête-à-tête avec leurs charmantes épouses sur des îles paradisiaques. Le Japon refusant donc tout flux migratoire de travail, il réembauche donc en ce moment les personnes âgées pour répondre aux exigences économiques et sociales. Depuis 2004, la population a donc baissé de 200 000 habitants par an au Japon, ce qui fait une perte de 3 200 000 habitants en moins de 16 ans. Le processus se voit aussi dans une moindre mesure en Corée du Sud ou à Taïwan ou à Singapour. Quant à la Chine, la Chine est passée de 700 millions de Chinois en 1967 à 1,3 milliard de Chinois, soit une multiplication par 2 en 54 ans. Après la politique nataliste de Mao, qui voulait qu'un homme, c'est quand même 2 bras, Deng Xiaoping, en 1979, a initié la politique de l'enfant unique, d'abord dans les villes, puis dans les zones urbaines, pour s'étendre à l'ensemble du pays. Avec des mesures très coercitives pour les couples qui faisaient 2 enfants ou pire plus. La croissance économique désirée ne pouvait en effet être partagée de façon exponentielle sans contrôle strict des naissances. La campagne pourvoyait aux masses d'ouvriers dont avaient besoin les industries qui s'installaient dans les zones économiques spéciales. La Chine a donc réussi son pari démographique, car c'est une dictature et par l'éducation et son extension à tous, filles et garçons, et dans le temps par un rallongement des études au secondaire. Sa population s'accroît donc très faiblement. Dans 5 ou 10 ans, selon les démographes, elle devrait être dépassée par la population de l'Union indienne. Eh bien tiens, allons voir un peu ce qui se passe pour l'Union indienne. L'Inde est une démocratie. Elle a essayé d'avoir une politique de contrôle des naissances très stricte entre 1975 et 1977. Mais cela a été vécu comme un traumatisme dans la population. Donc les gouvernements sont tous revenus à une politique plutôt incitative par des campagnes d'information et de prévention. Seulement, les écarts de richesse entre les Indiens sont tels, beaucoup vivent avec $1-$1 par jour, et entre un préservatif et manger, le choix est vite fait. L'enfant est obligatoire dans tout couple, et tout contrôle médical des naissances est tabou, voire mal vu. Un baiser au cinéma, je le répète, est interdit, donc parler de contrôle des naissances est plutôt difficile en fonction des régions de l'Inde. On assiste cependant à une baisse significative de la fécondité indienne, qui est passée de 7 enfants par femme en 1970 à 2,1 enfants aujourd'hui. À ceci, il faut expliquer ceci par deux facteurs. Premièrement, l'éducation des femmes, qui sont de plus en plus scolarisées. 100% sont scolarisées dans le primaire et de plus en plus de filles sont scolarisées dans le secondaire. La deuxième, c'est un processus de copiage du modèle sociétal occidental que l'on retrouve partout dans le monde. C'est-à-dire que la famille avec deux enfants est devenue un modèle acceptable pour vivre comme une classe moyenne en classe moyenne. Le Bangladesh suit lui aussi cette voie, puisque désormais 78% des Bangladaises de 15 à 24 ans sont alphabétisés et que le processus est engagé vers une plus forte alphabétisation et des parcours scolaires plus longs aussi dans ce pays, pourtant si mal développé, dirons-nous. Seuls l'Afghanistan et les régions ouest du Pakistan ont encore des taux de fécondité de 7 enfants par femme, qui coïncident avec la faiblesse de l'éducation des filles du fait de diktats religieux et traditionnalistes. La croissance de la population est donc similaire à ce que l'on observe pour l'ensemble de l'humanité. Seule l'intensité diffère par le fait que c'est le plus grand foyer de population au monde. N'oublions pas, l'Asie, c'est la moitié de la population mondiale. Voilà, mes chers élèves et auditeurs, ce qu'il faut retenir de ce thème. Nous nous retrouverons jeudi pour un cours sur les enjeux humains et environnementaux en Asie. Je remercie encore une fois Fréquence Mistral Manosque pour permettre cette émission qui, je sais, est de plus en plus écoutée. Je remercie aussi James Fontaine pour son soutien technique, ses conseils avisés téléphoniques et son amitié. Et merci aussi à mes élèves de me dire aussi par pronote ou autre, ben voilà, on a bien aimé, on voudrait avoir des éclaircissements sur telle ou telle chose dont je n'ai pas parlé, je le répète, ce ne sont pas l'ensemble des cours. Je vous invite fortement à lire et toujours lire vos livres de géographie, et pour ceux qui sont adultes, eh bien, de vous replonger dans les lectures, puisque le confinement nous le permet aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne continuation. Nous nous retrouvons donc jeudi pour une autre émission sur l'Asie du Sud et de l'Est. Au revoir et à tous, et bonne journée. Ciao.